Merci aussi de m'avoir invitée. Je suis très flattée, très ravie. Puis en plus, j'étais jamais venue à Lyon, donc voilà, je suis très contente. Merci. Merci aussi à Sophie Witt-Tavernier pour sa présentation tout à fait juridique. Voilà, moi je suis philosophe, je suis aussi un peu sociologue. Je dis toujours que je suis une sociologue de cooptation parce que j'ai appris une pratique de sociologue sur le terrain, mais je n'ai pas de formation en sociologie. Donc j'ai un profil un peu hybride comme ça. Dans le cadre de cette présentation aujourd'hui sur la biométrie, je vais essayer de prendre le temps d'explorer une question qui m'intéresse depuis longtemps. C'est la question de savoir si la biométrie est une biopolitique. Et si elle l'est, de quel type de biopolitique parle-t-on ? Alors, dans mon exposé, une variation, une méditation assez philosophique dans laquelle je vais essayer d'insérer ce que j'ai appelé les terrains, etc., donc plusieurs expériences de recherche. Voilà, donc ce n'est pas non plus que spéculatif. Alors, cette question de la biométrie qui serait une biopolitique, donc c'est une question philosophique d'héritage foucauldien que j'aimerais approfondir avec vous en faisant appel à des expériences de recherche, des terrains. Voilà, je viens de le dire en fait, bref. Donc la biopolitique, c'est un concept assez étrange, dans la mesure où il a connu une postérité que Foucault n'aurait pas espérée, puisqu'il a délaissé assez vite ce concept, en le laissant dans un état plus descriptif, qu'analytique, et lui préférant le concept de gouvernementalité ou de gouvernement. Donc ce concept de biopolitique connaît néanmoins une postérité, notamment en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, etc., et aussi dans le groupe de réflexion Multitude, qui donne lieu à cette revue Multitude. Donc c'est sur ce travail que je vais m'appuyer, entre autres, pour développer ma réflexion sur les pratiques et techniques biométriques et leur lien avec les biopolitiques contemporaines. Et alors je vais aussi, dans un troisième moment de mon exposé, m'appuyer sur Donna Haraway, qui est une philosophe féministe américaine sur laquelle je travaille beaucoup, qui commence à être connue en France et dans les pays francophones, enfin dans l'Europe francophone, je dirais, mais qui aux États-Unis est, on va dire, extrêmement, extrêmement connue et reconnue. Alors je vais commencer par poser le cadre. Qu'entend-on par biométrie et par biopolitique ? Et je vais me permettre de donner des définitions qui ne sont pas forcément des définitions doctrinaires ou consensuelles, enfin une définition que j'ai décidé philosophiquement qui me serait intéressante pour mon cheminement. Donc je définirais la biométrie comme une série hétérogène de technologies numériques capables de capturer des éléments corporels matériels, donc comme l'ADN, l'iris, les empreintes digitales, etc., et immatériels. Les images du corps, les morphologies, les comportements, j'aime bien cette distinction entre matériel et immatériel. Parenthèse, j'ai lu dernièrement un livre d'André Gorz qui s'appelle L'immatériel. Voilà, je pense que je n'ai pas eu le temps de prolonger cette connexion, mais il me semble qu'il y aurait quelque chose à faire aussi en lien avec ce capitalisme cognitif, surtout dans le cadre de la recherche en biométrie. Ces technologies rendent extrêmement efficaces les pratiques d'identification et de reconnaissance d'individus à partir des mesures de ces éléments corporels matériels et immatériels. Alors, il y a une autre définition que j'aime bien, c'est celle de Eze Sehan, et je ne sais pas si je prononce bien son nom parce que c'est un nom turc, et voilà. Mais j'imagine que vous la connaissez. Donc, ce que je vais lire, c'est extrait d'un article qui a été publié dans Culture et Conflits. Donc elle définit la biométrie. La biométrie place le corps au centre d'une nouvelle forme d'identité, de citoyenneté et d'un nouveau rapport à la souveraineté. Ce sont désormais les parties interchangeables du corps, comme les empreintes digitales et les empreintes de la rétine ou de l'iris, qui constituent l'élément de référence pour établir l'identité d'un individu. Donc voilà, ça c'est une définition que pour moi j'appelle assez consensuelle, plutôt sociologiquement consensuelle. Alors, au fur et à mesure, je voudrais un peu sortir un peu de cette définition-là. Donc, c'est une vieille pratique de reconnaissance et d'identification. Évidemment, on n'a pas attendu les technologies pour procéder à l'identification, à la reconnaissance d'individus par l'État. Mais cette pratique s'actualise dans des technologies de surveillance pervasive et intelligente. Donc, pervasive étant une espèce de mot valise entre invasive et permanente. Donc, cette pratique est déjà présente au 19e, elle se transforme radicalement due à la galopante prolifération des éléments numériques, qu'on appelle données ou data. Alors, on peut aussi faire référence à la fameuse loi de Moore, hein, sur le caractère exponentiel informatique. Donc, Moore étant un informaticien qui avait affirmé dès 1965 que le nombre de transistors par circuit de même taille allait doubler à prix constant tous les ans. Il rectifie ensuite en disant que c'était tous les 18 mois, et on voit qu'en fait sa prédiction voilà, se révèle tout à fait valable. Voilà, donc on est face à cette prolifération et ce caractère exponentiel de l'informatique, des données, du digital, etc. Et donc là, je crée un peu une espèce d'indifférenciation, quand je dis numérique ou digital, à la différence de Sophie Vouet-Tavernier qui catégorise bien les choses, je les laisse de manière volontaire dans cet indéfini. Alors son applicabilité se situe très souvent dans un contexte global de sécurité, de terrorisme mondialisé et de protection des frontières. Cette applicabilité est surtout une manière de la légitimer, évidemment, hein, dans le contexte que Zygmunt Bauman a pu qualifier de modernité liquide. Depuis les événements du 11 septembre 2001, le secteur de la recherche a considérablement investi dans les technologies de surveillance et notamment les techniques biométriques. C'est d'ailleurs dans ce cadre que j'ai pu moi-même expérimenter ce fameux terrain, puisque depuis 2007, je suis chercheuse dans des projets de recherche et développement en technologies de surveillance. Et donc, mon rôle étant de faire l'évaluation éthique et sociologique de ces technologies, j'ai aussi, pourtant ça ne fait pas très longtemps, hein, ça fait 8 ans, j'ai déjà vu comme ça une évolution dans la manière dont on va s'intéresser aux techniques biométriques. Donc j'ai pu approcher ces techniques telles qu'elles se font et constater combien elles se sont rendues économiquement aussi nécessaires. Hein. Et donc ça, j'aimais bien aussi ce que vous disiez hein, à la fin, finalement, comment concilier pour un État ou pour une régulation nationale, bah, les intérêts du droit et les intérêts économiques, en sachant que l'Europe a une obsession qui est de relancer la croissance, etc. Et le numérique étant ce qui va sauver en général la croissance des États. En Belgique francophone, le numérique va sauver la Wallonie. Ça, c'est le maître mot. Donc il y a quelque chose. Non, mais c'est comme ça qu'ils le disent. Voilà. Il faut une Silicon Valley en Wallonie, et tchik-tchak, enfin. Donc voilà, je vois aussi comme ça quelque chose de nécessaire et donc aussi une difficulté après à dire on n'en veut pas. En même temps, toutes ces technologies, on a investi pour qu'elles soient sur le marché, pour qu'elles correspondent à des besoins, etc. Donc cette invasion n'est pas que motivée par des intentions sécuritaires. Hein. Ça, il faut aussi le savoir. On n'est pas que dans une économie du sécuritaire, aussi une économie de la croissance à tout prix, etc., comme idéologie nécessaire. Donc dans ce contexte globalisé d'économie de la connaissance, les résultats de recherche et développement comptent comme un savoir transférable aux industries. Hein, elles se sont rendues nécessaires tout en étant légitimées par ce contexte sociopolitique sécuritaire. Hein, comme me disait un ingénieur lors d'un projet, il me dit « Mais tu sais Nathalie, tout le monde veut de la sécurité. Tout le monde achètera de la sécurité. » Parce que tout le monde a besoin de sécurité. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu aussi cet entrecroisement en termes d'applicabilité. Alors, en termes d'objets, qu'est-ce qu'on peut décrire hein, on peut dire qu'il y a une grande variété de mesures biométriques, de pratiques, de techniques. Bon, il y a les passeports et cartes d'identité électroniques qui intègrent différentes données corporelles et biométriques, lisibles aux postes frontières grâce à des appareils appropriés, les badges qui permettent de suivre à distance, pas après pas ceux qui le portent en reconstruisant leur mouvement, même de façon différenciée. Les smartphones font aussi ça, si on décide de le faire, on peut aussi se faire suivre. Les puces sur les cartes de crédit, les micropuces sous-cutanées qui transforment le corps de l'individu en une prothèse d'un dispositif d'identification et de surveillance. Les logiciels pouvant intercepter des milliards de messages électroniques à partir de mots-clés préétablis et acontextualisés, comme le logiciel carnivore du FBI, ou contrôler des data-images à des distances satellitaires, de façon à fixer la mobilité de mots et de corps en une grille rigide de discernement univoque et fragmentée. Donc c'est très très large en fait, hein, et plus la recherche se fait, plus elle s'agrandit, et plus en fait le champ devient galopant et différencié. Alors ce qu'il faut souligner aussi, c'est que l'adaptabilité de ces dispositifs qui innervent une multiplicité de réseaux infrastructurels est telle qu'elle devient avantageuse pour diverses fonctions et divers acquéreurs, aussi bien publics que privés. Donc on voit que c'est vraiment un entrecroisement très discret, mais très permanent, pervasif, qui s'opère. Donc ces techniques biométriques, elles sont hautement adaptables à leur environnement. D'ailleurs, toute une partie de la recherche maintenant en prospective en informatique travaille justement sur l'adaptabilité à l'environnement, toutes ces questions, comment un dispositif numérique va s'adapter le mieux possible à l'environnement. Donc on est clairement même dans une pensée de l'écologie des dispositifs numériques, hein, tels qu'on peut les penser pour les plantes, etc. Elles sont pervasives, je l'ai dit, potentiellement en couplage entre elles et en s'alliant avec les technologies de l'informatique sociale, comme les réseaux sociaux, Facebook, etc. etc. Elles forment de redoutables agencements de contrôle continu des corps. Bon, c'est aussi, alors c'est en cela qu'on peut dire que ces techniques relèvent à la fois de techniques disciplinaires, hein, donc là j'en arrive à la biopolitique, mais aussi de techniques de contrôle. Hein, et là je fais référence au post-scriptum sur les sociétés de contrôle qu'avait écrit Deleuze en 1990, un petit texte tout petit, mais très, c'était une grande prémonition, je trouve. Mais ça, j'y reviendrai évidemment plus tard. Donc ces techniques pratiques suivent d'abord un but d'identification, de reconnaissance des individus. Participent aussi à une surveillance généralisée qui cible tant les individus potentiellement dangereux, donc les déviants, délinquants, terroristes et migrants, mais aussi une masse anonymisée de comportements, de consommation, de déplacements, de choix, etc. etc. Bon, ce que ma collègue Antoine Trouvrois appelle, elle dit ça évidemment beaucoup mieux que moi et c'est son champ de recherche, mais qu'elle désigne par la gouvernementalité algorithmique. Donc en suivant ce raisonnement, on est tenté de recouvrir les termes de biométrie et de surveillance. Donc moi, c'est un peu le chemin que j'ai envie de faire ici. En effet, finalement, tout comportement de surveillance est quasi toujours une surveillance de quelqu'un ou d'individu possible. Même quand il est annoncé que l'on surveille un lieu, comme une place, la gare, un aéroport, un espace ouvert, etc. En fait, ce n'est pas le lieu qu'on surveille, ce sont les gens qui le traversent, qui intéressent les caméras, puisque ce sont eux qui sont à l'origine d'une déviance possible ou d'un danger possible. Le lieu n'existe pas comme un lieu sans les individus qui le composent, sinon c'est un non-lieu, comme dirait Marc Auger. Et d'ailleurs, aucun lieu vide n'est capable de dévier de la norme des espaces publics. Donc évidemment, les délinquants, les terroristes, etc., qui font office de dénormes, qui sont potentiellement les dénormés. Donc toute surveillance est nécessairement une biométrie qui ne dit pas encore son nom pour moi. C'est une assertion qu'on n'aurait pas pu dire, à mon avis, qu'on n'aurait pas pu prononcer il y a 10 ans. Quand j'ai commencé la recherche, on n'était pas du tout dans cette manière, on n'aurait pas pu dire ça, on distinguait encore très fort une surveillance, une vidéosurveillance, même relativement intelligente, et une biométrie avec justement toutes ces ADN, reconnaissance de l'iris, etc. Tout ça était très distingué. Maintenant, je trouve que c'est très difficile de soutenir encore cette distinction. Et d'ailleurs, c'est un peu dans le sens dans lequel vous alliez tout à l'heure. Donc les zones sont floutées entre une biométrie matérielle et une biosurveillance classique, surveillant-surveillé. Il y a une superposition et une indifférenciation entre ce qu'on avait désigné comme pertinent. Donc voilà un peu pour moi ce que j'avais considéré comme biométrie, donc un ensemble de techniques, mais qui induisent des pratiques, ces pratiques étant anciennes, mais s'actualisant dans une autre forme grâce à de nouvelles technologies. Et ça, c'est toute la force de l'informatique, parenthèse comme ça, mais les algorithmes existent depuis l'Antiquité. On a écrit des algorithmes depuis très longtemps, mais c'est grâce aux machines que les algorithmes ont pu s'incarner. Donc il y a quelque chose comme ça en termes d'individuation, je dirais, qui est tout à fait spécifique, et qui joue justement sur la manière dont on doit, à mon avis, requalifier la biométrie dans nos sociétés du XXIe siècle. Alors, deuxième phase, un peu de mise en place des définitions. Alors, biopolitique, biopouvoir, j'ai dit, c'est un concept même parfois considéré comme un peu bateau. C'est que Bruno Latour a pu dire, bon, on peut faire de la biopolitique de tout, finalement, et il n'a pas tort, on peut faire de la biopolitique d'une chaise, d'un arbre, d'un lapin, et de tous les étudiants de Lyon. C'est pas faux, c'est vrai que ça peut être un terme assez fourre-tout, puisque c'est considérer qu'on exerce une politique ou un pouvoir sur des corps. Néanmoins, dans ce cadre-ci, il me semblait que c'était un concept qui pouvait être pertinent. Je ne l'utiliserai pas, je n'en mangerai pas à tous les repas, voilà, dire ça comme ça, mais ça me semble pas mal. Donc, c'est une forme de gouvernement des individus, distincte des expressions canoniques du pouvoir souverain, donc là je reprends vraiment la distinction foucauldienne, qui se présente avant tout comme un ensemble de stratégies qui comblent les carences que la souveraineté juridico-territoriale de l'État avait laissé en place et qui donne lieu à une des lignes de gouvernementalité moderne. Et donc, tout un champ qui, sur les études, gouvernementality studies, dans les pays anglo-saxons, voilà, qui est beaucoup plus développé que chez nous, que dans l'Europe francophone. Pendant ce processus, la gouvernementalité acquiert une position centrale, en général pratiquée à travers des formes d'individualisation et de totalisation de l'exercice du pouvoir, récupérant cette aptitude à prendre soin de tout un chacun, typique du pouvoir pastoral, exercé traditionnellement par les autorités religieuses chrétiennes. Donc c'est ainsi que la biopolitique, dans ses phases historiques initiales, Donc la manière dont Foucault a pu les décrire à partir du XVIIIe siècle, use de systèmes de gouvernement individuel et général, tels que les disciplines et la police, à travers lesquels elle intervient sur la vie des corps-organismes et des corps-espèces, en développant une gestion globale des phénomènes biologiques, démographiques et économiques qu'on va englober sous le terme de la population. Alors ça, voilà, Foucault décrit ça, et voilà, il précise bien que chez Foucault, c'est très historicisé comme travail. Donc il décrit ça en disant, voilà, ça fait partie de cette époque-là, etc. Alors ça ne veut pas dire, évidemment, qu'avant ça n'existait pas et qu'après ça n'existera plus. Hein. Il y a une permanence aussi hein, de ces modes de pouvoir, mais qui s'entrecroisent avec d'autres modes de pouvoir. Et c'est un peu ça que je voudrais faire ici, hein, c'est voir comment ça s'entrecroise avec d'autres formes de pouvoir. Donc Foucault, en 77, définit le biopouvoir, hein, comme une technique de pouvoir agissant dans la matière même des corps. Et c'est là où j'arrive à ce qui m'intéresse au plus fin. Donc je le cite, « Le contrôle de la société sur les individus ne s'effectue pas seulement par la conscience ou par l'idéologie, mais aussi dans le corps et avec le corps. Le corps est une réalité biopolitique, la médecine est une stratégie biopolitique. » Et donc ça, on sait, nombre d'études, on a fait des gammes à partir de cette assertion-là. En 79, il écrit le résumé de son cours « Naissance de la biopolitique » et pose la biopolitique comme la manière dont on a essayé depuis le XVIIIe siècle de rationaliser les problèmes posés à la pratique gouvernementale par les phénomènes propres à un ensemble de vivants constitués en population. Hygiène, natalité, santé, longévité, race, etc. Donc la biopolitique est une forme de rationalité politique inscrite dans le libéralisme d'après Foucault. Cette notion de discipline chez Foucault, société disciplinaire, société de biopouvoir, est associée à la norme. Cette norme est une règle naturelle du régime disciplinaire. Donc c'est des codes de normalisation, ce ne sont pas des lois. Donc c'est là où on est à côté d'un régime juridique, effectivement, qui s'édifie et se légitime à partir des sciences humaines et qui prennent véritablement le ressort au XIXe siècle. Donc les corps sont fabriqués par les normes parce que donc le pouvoir passe à travers les corps, dit Foucault. Je le cite encore. Comment les rapports de pouvoir peuvent passer matériellement dans l'épaisseur même des corps sans avoir à être relayés par la représentation des sujets. Voilà comment il définit le biopouvoir. Si le pouvoir atteint le corps, ce n'est pas parce qu'il a d'abord été intériorisé dans la conscience des gens, pas du tout. Il y a un réseau de biopouvoir, trois petits points, etc. Donc voilà, il y a cette idée comme ça que le pouvoir traverse sans forcément donner conscience. Hein. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement biométrique, effectivement. La biométrie nous traverse sans forcément qu'on en ait une conscience absolue. Hein. Cette conscience, elle vient a posteriori, elle vient par une éducation, hein, vous en avez parlé d'ailleurs. Il faut éduquer les gens à cette idée de la vie privée. Hein. Donc Foucault et puis nombre de ses héritiers, évidemment, vont penser cet investissement politique des corps sur un double plan, d'une part sur le plan de l'individu dans son existence singulière, et d'autre part sur le plan de la population, à travers l'économie politique et la gouvernance des comportements sociaux. Donc il distingue l'anatomopolitique, étude des stratégies et des pratiques par lesquelles le pouvoir modèle les individus, de l'école à l'usine, la prison, tous les lieux d'enfermement, etc. Il s'agit de surveiller, de redresser les corps des individus, et puis il distingue d'autre part la biopolitique comme gestion politique de la vie, visant non plus les individus particuliers, mais l'ensemble des vivants en tant que population. Et donc là, on voit bien que cette distinction, elle est aussi très opérante pour les pratiques biométriques. Il s'agit alors de gérer la santé, l'hygiène, je l'ai déjà dit. Donc on vient de décrire ces deux logiques foucauldiennes d'assujettissement aux normes par les corps. Alors, ces logiques d'assujettissement, elle procède aussi d'un mode relationnel. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est parce que les normes nous traversent que nous devenons sujets. Hein. Et donc, ça, ce serait aussi intéressant. C'est aussi intéressant à souligner finalement que ces pratiques biométriques qui nous traversent comme étant une forme de pouvoir discret, comme ça, discrétionnaire, nous construisent aussi d'une certaine manière. Mais la question sera de savoir comment nous avons intégré cette biométrie comme étant une partie de nos modes d'individuation, et pas simplement comme quelque chose envers lequel il faut se protéger ou il faut combattre. Comme le dit donc Butler en reprenant Foucault, Judith Butler, il n'y a pas de constitution de soi en dehors des normes qui orchestre les formes possibles que peut prendre un sujet. Voilà, donc ça aussi j'y reviendrai sur la manière dont une espèce d'ontologie doit se repenser. Donc, Foucault examine comment les corps sont investis par les techniques de pouvoir. Je le cite, la maîtrise, la conscience de son corps n'ont pu être acquis que par l'effet de l'investissement du corps par le pouvoir. La gymnastique, les exercices, le développement musculaire, la nudité, l'exaltation du beau corps, etc. Tout cela dans une ligne qui conduit au désir de son propre corps par un travail insistant, obstiné, méticuleux, que le pouvoir a exercé sur les corps. Donc ces investissements politiques des corps ont pour corollaire systémique de produire des effets de résistance. Ça, c'est la grande thèse de Foucault sur le pouvoir. Les corps, dès lors, revendiquent, mais toujours dans un rapport d'attachement à ce à quoi ils étaient contraints. Le pouvoir s'insère dans les corps et produit des corps revendiquant du pouvoir sur eux-mêmes, comme les revendications de plaisir à l'égard des normes du mariage, de la pudeur ou de la décence. Voilà, bon, je vais un petit peu plus vite, mais... Donc, par exemple, quand Foucault il reprend l'exemple des campagnes de santé publique, entre guillemets, contre l'auto-érotisme, la masturbation, etc., dit que ces campagnes ont intensifié le contrôle et la surveillance minutieuse opérée sur les enfants et les jeunes gens, et cela en créant et multipliant les discours et les analyses. Donc, il a dit, finalement, ça a créé des effets d'intensification du désir produits par ce double jeu de la surveillance et du discours sûr. Mais ce qui est intensifié, c'est d'abord le corps comme un enjeu, comme un lieu d'identification, d'intensification de ces différents registres. Et alors, j'aimerais aussi parler, de voir finalement quel type de désir-plaisir, quel type d'intensification du désir est produit par les pratiques de biométrie. Je trouve que c'est une question qui mériterait aussi d'être posée. Bon, on parlait des... c'était quoi les trucs parties, là? RFID party, oui. Bon, alors je ne dis pas que ça pourrait être ça, mais bon, y a des tas d'artistes aussi qui expérimentent ce genre de choses. Bon, c'est évidemment très marginal, etc. Voilà, je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait réfléchir. Alors, en quoi les pratiques biométriques seraient-elles biopolitiques? Alors évidemment, moi j'ai envie de dire évidemment oui, c'est un peu le jeu, oui d'une certaine manière, oui dans un premier temps. Donc dès leur forme initiale, dès la biométrie sans les techniques biométriques, on va dire, c'est de l'ordre de la biopolitique, dans le sens où identifier, reconnaître et surveiller ce qui est de l'ordre de la vie même, donc les corps, les éléments corporels bruts, c'est un ordonnancement biopolitique, à l'instar des politiques de santé publique visant la morbidité ou la natalité, les épidémies, etc. Il s'agit de surveiller des masses de corps tout en étant capable de s'intéresser à un corps en particulier, que dans le cadre de la biométrie, on va désigner comme déviant, indésirable, dangereux, etc., etc., si le besoin s'en fait sentir. Alors, je voudrais là prendre deux exemples paradigmatiques de biopolitique biométrique. Ça fait beaucoup de bio, quand même. Mais d'abord, la première réponse, qui est plutôt une réponse intuitive, comme ça, un peu brute, c'est la réponse qu'a donnée Agamben, donc Giorgio Agamben, qui est un philosophe italien, foucaldien. Je dirais foucaldo-négrien, pour faire un peu dans la catégorie. C'est pas bien de faire des catégories, mais pour le mettre quelque part, bon. Alors lui, il va comparer finalement la biométrie au camp de concentration. Il va comparer les pratiques biométriques au paradigme politique du camp de concentration à cause du marquage des corps comme mode d'identification. Alors là, je le cite, c'est un extrait de Multitude, et ça date quand même. Ça date... du début des années 2000. Donc voilà. Ainsi, en appliquant aux citoyens, ou plutôt à l'être humain comme tel, les techniques et les dispositifs qu'ils avaient inventés pour les classes dangereuses, les États qui devraient constituer le lieu même de la vie politique, ont fait de lui le suspect par excellence, au point que c'est l'humanité elle-même qui est devenue la classe dangereuse. Il y a quelques années, j'avais écrit que le paradigme politique de l'Occident n'était plus la cité, mais le camp de concentration, que nous étions passés d'Athènes à Auschwitz. Il s'agissait évidemment d'une thèse philosophique et non pas d'un récit historique, car on ne saurait confondre les phénomènes qu'il convient au contraire de distinguer. Je voudrais suggérer que le tatouage était sans doute apparu à Auschwitz comme la manière la plus normale et la plus économique de régler l'inscription et l'enregistrement des déportés dans les camps de concentration. Voilà, donc ça, je trouve que voilà, comme manière d'identifier cette pratique, comme la pratique biométrique, sans forcément la voir comme étant maintenant extrêmement pervasive, dans un premier temps, une forme initiale. Voilà, c'est un paradigme qui tient, mais dans la situation actuelle, il ne tient plus. Cette figure du camp de concentration, elle procède à cette réactivation dans un esprit entièrement nouveau, les pratiques biométriques, donc en rendant neutre et objectif cette naturalisation de l'identité personnelle, ce que font les pratiques biométriques contemporaines. Et en les concevant simplement comme des moyens pratiques, utiles, efficaces, rapides, elles suppriment toute destination infamante ou dégradante de marquage. Donc en fait, maintenant, il n'y a plus de marquage. On n'est plus tatoué, je veux dire, c'est plus visible, quoi. C'est un marquage qui est discret. Ce qui était un marquage infamant devient un mode discret de reconnaissance auquel il est difficile de s'opposer de manière consciente ou consentante. Et c'est là pour moi que le consentement, malheureusement, est une aporie dans ce système. Je suis un peu déçue toujours d'y penser comme ça, mais je ne vois pas ça autrement. Toute la force des techniques biométriques réside dans cette discrétion, ce marquage virtuel quasi invisible, quasi impermanent, comparé à la logique du camp et du tatouage. Donc, j'ai mentionné Deleuze tout à l'heure, son court texte Postscriptum sur la société de contrôle, où il décrit finalement un passage de la société disciplinaire de Foucault à un passage, enfin, à une société de contrôle. Hein, et donc, Guattari a beaucoup aussi travaillé là-dessus. J'ai pas pris le temps de... Ça devenait trop long aussi, mais... Voilà, donc, ce que Deleuze dit, par exemple, c'est que dans les sociétés de contrôle, je le cite aussi, au contraire, l'essentiel n'est plus une signature ou un nombre, mais c'est un chiffre. Le chiffre est un mot de passe, tandis que les sociétés disciplinaires sont réglées par des mots d'ordre. Pardon. Le langage numérique du contrôle est un effet de chiffre qui marque l'accès à l'information ou le rejet. On ne se trouve plus devant le couple masse-individu. Les individus sont devenus des individuels, des masses, et les masses des échantillons, des données, des marchés ou des banques. Bon, là, évidemment, il y avait aussi quelque chose de prémonitoire dans ce texte. Je passe sur les longs extraits. Mais il n'empêche que pour moi, nous restons néanmoins dans une grande infamie, même malgré ce marquage, ces discrétions du marquage. Dès les événements du 11 septembre, donc on passe pour moi d'une figure du camp et juif, hein, du camp plus juif, on va dire, à celle des frontières et du terroriste migrant. Hein, le terroriste et le migrant étant finalement les deux faces d'un même indésirable. Donc on retrouve cette pratique biopolitique, mais elle ne se sature pas, puisqu'elle déborde sur ce paysage de la société de contrôle. Donc le territoire, la biométrie du 11 septembre, ce sont les frontières, qu'elles soient matérielles, comme les mers, les murs, les déserts, etc., toutes des frontières que matériellement il est difficile de traverser, ou bien immatérielles. Et ces frontières immatérielles sont de plus en plus présentes. Hein. On travaille notamment, là je fais donc une incursion sur un des terrains de recherche, sur un autre projet européen qui s'appelle P5, et qui est un projet qui travaille justement sur la protection de ce qu'ils appellent les infrastructures critiques. Donc toutes des infrastructures, donc tous des lieux qui sont supposés être, devant être protégés par une série de protections, critical infrastructure, et donc P5 étant périmètre, enfin bref, je ne sais jamais les acronymes parce que c'est affreux, mais... Et donc sur ce projet par exemple, l'intérêt de ce projet c'est de, si vous voulez, d'accumuler les couches de protection. Donc on superpose les caméras, les radars, les Dopplers, etc. Et tout le jeu est justement de fabriquer des frontières tout à fait virtuelles, avec différents degrés d'entrée au sein de ces différentes frontières qui protègent notamment les centrales nucléaires, mais aussi il pourrait y avoir des lieux à protéger comme des lieux de l'armée ou des choses comme ça. Les zones de transit dans les aéroports sont aussi des lieux immatériels, hein, où une porte est facile à ouvrir, mais les portiques font qu'il y a une immatérialité comme ça, de la frontière qui s'inscrit au sein même des lieux physiques de l'aéroport. Et donc les figures, c'est d'abord les terroristes, hein, à partir de 2001, et puis pour moi maintenant, les terroristes évidemment sont toujours là, mais ce sont une figure qui est devenue... Enfin, qui fait partie du paysage, mais je pense que la figure des migrants, et notamment face aux derniers événements de ces migrants qui meurent en mer, comme ça, sur ces frontières toujours solides qu'est la mer Méditerranée, le migrant est aussi devenu, à mon avis, une figure de cette biopolitique de la frontière. Alors, là, je voudrais... Je ne sais pas si... Oui, ça va. Je voudrais faire référence à un article de Garapon et Fossel de 2007 à propos du terrorisme. Je trouve qu'ils ont bien systématisé comme ça cette question, le lien entre biométrie et terrorisme. Donc ce qu'ils disent, hein, c'est que la généralisation de la biométrie trouve d'abord sa justification dans l'anonymat caractéristique de l'action ou de l'acteur terroriste. Hein, parenthèse sur l'anonymat, l'anonymat étant, à mon avis, pour moi, la meilleure stratégie. Enfin, une des stratégies possibles face à cette prolifération du numérique, hein. Notamment le collectif Anonymous, mais aussi un tas de collectifs d'activistes du numérique, des hackers, etc., qui travaillent sur cette question-là. Bref, donc le terroriste ou l'action terroriste se justifie d'abord dans l'anonymat. Donc, c'est une réponse adéquate et efficace à la peur de l'effacement des critères traditionnellement retenus en la matière de dangerosité, tels que la nationalité ou l'appartenance religieuse. Donc, les paramètres biométriques peuvent identifier en effet un individu sans considération de son appartenance nationale ou communautaire. Alors ça, c'est ce que disent Garapon et Fussell. Alors c'est vrai qu'ils peuvent le faire, et en même temps j'ai l'impression que depuis 2010, depuis quelques années, en fait, ce qu'on pensait pouvoir délaisser, on va le rechercher pour juste le superposer. Donc ce marquage discret est aussi un marquage discret de la race, de la nationalité, etc. Dans un des projets, on avait à un moment une discussion avec des ingénieurs qui disaient qu'ils pouvaient faire du body tracking à partir de la reconnaissance de la peau. Alors on a dit, mais vous savez, si vous faites ça, vous vous exposez à faire vraiment une technologie tout à fait raciste. Et bon, alors finalement, ils ne l'ont pas fait, c'était dans le projet MIOS. Mais bon, ça veut dire que tout ça est virtuellement possible. Et donc, on peut superposer des types de discrimination qu'on pensait pouvoir laisser de côté en justification d'une meilleure objectivité de ce que pouvait être le terroriste. Non, là, on va en fait les superposer. Donc, pour moi, c'est gravissime, en fait. Parce que là, on ne laisse aucune chance, finalement, aucune chance à l'individu. Et selon donc des critères qui n'empruntent rien à sa biographie. Parce qu'elle identifie de la sorte, la biométrie permet de suivre à la trace, à l'instar du suivi de transport, des marchandises suivant le principe de la traçabilité. Il s'agit, dans les deux cas, d'identifier des individus, de mettre en mémoire leur itinéraire et de déduire un degré de dangerosité de la nature des mouvements observés. Donc, on a parlé de ce contexte de surveillance généralisée qui devient de plus en plus déterritorialisé et intrusive, pervasive. Et on va dire, on pourrait aussi qualifier le terrorisme avec les mêmes termes, finalement. Ce terrorisme est aussi déterritorialisé et intrusif, est aussi quelque part pervasif. Et on peut même supposer qu'il y a quelque chose de systémique, finalement, entre ce contexte et ce terrorisme. Donc, le terrorisme comme une stratégie d'indiscrimination qui se distribue dans les divers registres, confusion entre les civils et les combattants, entre victimes et coupables, entre public et privé. L'attentat terroriste manifeste la disparition, la distinction entre le front et l'arrière, en termes de combat, au profit de lieux indistincts, privés et publics, comme la rue, la bouche de métro ou l'aéroport. La stratégie terroriste est ainsi une stratégie de l'ubiquité, et ceci étant dit, c'est exactement ce que sont ces technologies biométriques ou de vidéosurveillance. Ce sont aussi des technologies d'ubiquité. Il s'agit de convaincre l'ennemi que tout espace peut à tout instant devenir un lieu de combat. Donc il y a une condition nécessaire, évidemment, à cette mise en œuvre stratégique, c'est l'anonymat. Il détourne et il ruse finalement avec ce principe démocratique de la présomption d'innocence pour Garapon et Fussell, puisqu'il a besoin d'apparaître comme celui qui ne peut pas nuire pour conférer à son acte le maximum de portée. Donc l'attentat terroriste consiste donc dans une subversion radicale de la norme à partir de son respect apparent. Il s'agit dans tous les cas de faire surgir la terreur dans un lieu neutre, un espace commun, et dans un élément a priori rassurant, qu'est le quotidien, en rendant tout à coup incertain le comportement et l'usage des objets les plus communs. La voiture explose quand on tourne la clé du démarreur, le métro déraille, l'eau est empoisonnée, etc., etc. Cette stratégie est nécessaire à la fois pour rendre imprévisible la survenue de l'acte et incalculable ses effets. Donc cette stratégie, c'est une stratégie de la visibilité retardée, disent Garapon et Fussell. À l'anonymat et à l'indistinction doit en effet succéder de manière brutale et violente une forme de publicité totale relayée par les médias. Les médias étant aussi, une technologie numérique. Donc vous voyez que si on oublie les catégories, on se rend compte qu'en fait ces technologies numériques sont vraiment partout et on peut les voir sur une coupe transversale, si vous voulez. Et on peut voir après les liens qui sont faits, alors qu'en général, on sépare les champs, la police, etc. Tandis que là, si on les regarde autrement, on se rend compte à quel point tout ça est extrêmement lié. Donc c'est à ce point d'articulation entre dissimulation et visibilité que situe la biométrie. Cette dernière permet en effet d'établir des critères d'identification stables, puisqu'ils sont informatisés et encodés dans un langage universel et permanent, puisqu'ils s'ancrent dans la permanence des corps. Ce présupposé, évidemment, c'est que le corps, c'est la seule chose dont un individu ne puisse se déprendre à un moment ou à un autre. Il ne résiste pas à l'indistinction propre à l'action terroriste. C'est l'inertie du corps qui est requise comme un rempart aux stratégies de la dissimulation. Alors on peut dire, bon là c'est tout un développement très intelligent je trouve sur le terrorisme et sur finalement les rapports systémiques que les actions terroristes ont avec les contextes occidentaux. Et je trouvais ça très, très intelligent finalement, plutôt que d'opposer ça plutôt en termes normatifs et de voir ça en termes plutôt écosystémiques. Alors on peut voir, pour moi on peut faire, j'ai pas développé autant, mais on peut faire la même analyse avec les migrants. Hein, donc je pense à tous ces migrants qui meurent en Méditerranée, etc., et qu'on refoule aux frontières. Je pense aussi aux migrants qui sont présents sous notre territoire, mais de manière clandestine, et à un moment qu'on attrape, et dont il faut déterminer, par exemple, s'ils sont mineurs ou majeurs. Hein, donc les mineurs ayant un statut de protection particulier, et les majeurs donc, devant être refoulés hors du territoire. Et donc pour ces mineurs, il y a une série de tests qui sont des tests typiquement biométriques. Des tests osseux, de pilosité, de dentition, des tests génitaux, en vue de déterminer l'âge réel d'une personne se déclarant mineure. Hein, et donc là, on sait aussi à quel point tout ça est extrêmement imprécis. Hein. Sur la dentition, par exemple, c'est extrêmement imprécis. Hein. Il y a pas, ça peut, la variabilité, elle est de un an ou deux. Donc, quelqu'un qui déclare avoir 16 ans pourrait en avoir 18. Et donc, c'est là où se joue, finalement, bon, un enfant de 10 ans, on sait qu'il est mineur, mais quelqu'un qui déclare avoir 16 ans, c'est déjà beaucoup plus délicat. Mais je pense aussi aux gens aux migrants qui sont sur le territoire et qui cherchent à faire du regroupement familial. Là, il y a toutes des séries ADN, le test ADN en vue d'établir la parenté réelle entre deux personnes, sollicitant le regroupement. Les tests biométriques pour vérifier l'identité réelle d'un individu. Et on sait que les données biométriques, par exemple, dans le cadre des grands conflits en Afghanistan ou en Irak, il y a toute une série de données biométriques récoltées par les organisations humanitaires qui sont après données, revendues. Enfin, je ne sais pas comment ils arrivent là, mais dont on a des traces, finalement, de ces gens qui sont... Tout ça est très... est toujours aussi infamant, pour reprendre les termes de Agamben. Donc, en conclusion, je dirais que les dispositifs biométriques, au sens élargi du terme, tel que je l'ai défini, font preuve d'une biopolitique dévorante de la vie même, hein, inscrite dans une dynamique de régulation post-disciplinaire de la société de contrôle, dans laquelle l'incertitude contingente de la vie même doit être domestiquée par le biais d'un contrôle continuel et permanent. Le mythe de la sécurité qui, de Hobbes à Beck, obsède l'État moderne, en l'obligeant à digérer les instruments de garantie juridique, atteint avec cette technologie biométrique son paroxysme. Hein, donc pour moi, on est à une limite là, je pense. Et je pense qu'en termes juridiques aussi, on voit qu'on est on touche à des limites. Avant de parler un peu d'Araoué, de tout ce travail sur les corps, je voudrais... faire un interlude avec deux corollaires sur les corps. Donc, le premier corollaire étant que le corps ne ment pas, hein, vous l'avez dit aussi, c'est le grand slogan de la biométrie. Donc ce corps qui ne ment pas, c'est la production d'un régime de vérité extrêmement fort. Hein. Le corps ne ment pas, bien que parfois la technologie lise ou entende mal. Moi, c'est toujours ce que j'ai envie de dire. Il ne ment peut-être pas le corps, mais la technologie, parfois, elle n'entend pas bien ou elle ne nie pas bien le corps. Hein. Donc face à une incertitude radicale et permanente, le seul repère possible et tangible, finalement, c'est la vérité du corps, c'est vraiment comment la biométrie s'exerce. Cette vérité du corps se dit dans une scientificité neutre et universelle, complètement inconsciente de sa position privilégiée et dominante. Donc là, j'emploie ce terme à l'instar des féministes américaines, des théories féministes en tout cas, qui ont, toutes ces épistémologues féministes ont travaillé comme ça sur... les modes de production de savoir scientifique, et montrer finalement que tous ces savoirs prétendument neutres, objectifs, étaient surtout un savoir masculin. Bon, là, ici, le masculin, le féminin n'est pas relevant, mais en tout cas, un savoir, une production dominante. Hein. Toute production d'universalité est une production finalement de domination. Donc, ils ont dénoncé ce qu'elles appelaient le male gaze, hein, le regard masculin des sciences, neutre, objectif, universel, qui est surtout désossé de sa contingence de pensée. Hein, c'est surtout ça, finalement, qu'elles ont dit. C'est qu'une pensée désossée est une pensée forcément de domination. Donc, ces modes de véridiction finissent par apparaître normaux et naturels. Hein, et donc, cette naturalisation progressive, comme ça, et a posteriori, elle va jouer aussi, attention, elle va jouer un rôle dans l'attachement qu'on a à ce corps biologique et cet attachement qu'on a à la biométrie. Puisque dans une certaine mesure, pour moi, on restaure un peu un primat de la race et de la biologie génomique à travers ces pratiques biométriques, bien qu'on affirme le contraire, hein, La race est aussi une production scientifique qui se voulait neutre il y a 100 ans, qui maintenant on sait que voilà, c'était une construction infamante, mais à l'époque elle n'était pas vue comme ça. Pour moi, on consacre l'incapacitation de la narration biographique pour décliner son identité. Hein, ça, c'est quelque chose voilà, que la CNIL a beaucoup relevé. C'est une désubjectivation opérée dans le design même des artefacts biométriques. Hein, donc, si on prend l'exemple de la reconnaissance faciale des émotions, donc ces algorithmes qui calculent, qui savent reconnaître une émotion, donc on a des algorithmes de reconnaissance faciale tout court. Donc, typiquement sur Facebook, bon, voilà, on upload des photos et l'application reconnaît hein, qui est là, etc. Mais aussi des applications de reconnaissance faciale des émotions, où en fait, à travers un calcul à partir d'une modélisation des émotions extrêmement standardisée, on peut mesurer finalement des degrés d'émotion sur le visage. Mais ce ne sont pas les émotions finalement qui s'expriment, ce sont des expressions d'émotions. Donc c'est ni des émotions ni des sentiments qui sont reconnus, mais c'est une forme d'expression. Donc c'est un réductionnisme extrême. Hein. Donc pour moi c'est vraiment une tentative de désubjectivation, sur laquelle en plus on n'a aucune prise. Hein. On n'a pas prise là-dessus. On ne peut pas revenir sur... Et on ne peut pas aller dans le code non plus, même si on voulait le faire, on ne peut pas le faire. Ou alors il faut être extrêmement... extrêmement habile. Un autre exemple que je voudrais donner dans le cadre de cette idée que le corps ne ment pas, à rebours de la reconnaissance faciale des émotions, c'est l'exemple des bodycams. Donc les bodycams, ce sont des petites caméras en fait que notamment les policiers accrochent à leur uniforme hein, et qu'ils doivent enclencher selon un peu les ordres qu'ils ont en cas de situation un peu litigieuse dans le cas d'une manifestation ou de un match de foot qui dégénère, etc., pour filmer voilà, des situations dont finalement on ne sait pas. Hein, ça, c'est en voie de généralisation, pas pour le tous les jours, mais pour les cas voilà, un peu... Et donc là aussi, c'est la conjonction du corps et de l'artefact qui produit un régime de vérité. Hein, le récit du manifestant, comme celui du policier, n'a plus de valeur face au récit des bandes vidéo accrochées au corps même. Hein. Donc c'est aussi quelque part une biométrie un peu... Si vous voulez penser à rebours hein, de la reconnaissance faciale, mais c'est aussi quelque part une forme de biométrie, puisque c'est encore une fois la vérité du corps qui va compter. Alors le deuxième corollaire, c'est que le corps fait loi. Hein, et là, c'est surtout en pensant aux migrants que je pense à ce corollaire, puisqu'il y a un régime de légitimité qui s'installe dans la mesure où le corps fait loi, peut faire loi s'il se dépolitise face à l'État. Hein, dans le cas, par exemple, des corps des migrants, donc tous ces corps humanitaires, et il faut qu'ils soient, comment dire, dépolitisés, donc qu'ils soient dans une situation de crise humanitaire pour qu'ils puissent recevoir des droits. Je pense à un exemple tout à fait récent qui est la naissance d'un bébé sur un bateau, la petite Francesca Marina, qui est née deux jours après la princesse d'Angleterre, je ne sais plus comment elle s'appelle, Charlotte, voilà, bref. Donc, ce sont des migrants nigériens qui étaient sur un bateau en Méditerranée. Ils ont été secourus. Et alors, une dame qui était enceinte a accouché sur le bateau. Alors, c'était un magnifique bébé, un nouveau-né magnifique, etc. On a eu des photos. Sur la toile, on a comparé l'enfant royal et cet enfant, etc. On a dit, c'est aussi un enfant royal, etc. Et voilà. Et donc, dans toute la presse, on a dit, cet enfant a ému l'Italie, et tchik et tchak. Enfin, ça a été... Voilà, et c'est ça que je veux dire quand on dit que le corps fait loi, c'est que cette manière humanitaire de considérer le corps, finalement, c'est une manière aussi de dépolitiser. Parce que c'est seulement s'il est souffrant et dans un mode humanitaire, un mode de besoin, qu'il va pouvoir recevoir des droits. Hein, donc tous ces migrants qui arrivent de manière clandestine, si on les attrape, on les remballe, on ne peut pas dire un autre mot pour dire qu'on les renvoie chez eux, mais cet enfant qui a un ému d'Italie, elle va probablement recevoir la nationalité italienne. Hein. Et donc elle va probablement avoir des vrais droits. Hein. Donc elle ne sera pas une sans-voix comme ceux avec qui elle avait fait le voyage. Alors, comment qualifier cet attachement au corps et comment le qualifier? Donc on a dit, voilà, cet attachement au corps, et maintenant j'utilise ce terme d'attachement dans le sens à la fois affectif et dans le sens concret, hein, comme les bodycams, quoi, un attachement. C'est un attachement biopolitique, un attachement à la vie même. Alors, à l'instar de tout ce qui a déjà été dit sur les corps dans la biopolitique, hein, là, pour faire référence à toutes des pages bibliographie, on sait que cet attachement nous décroche de notre humanité humaniste, hein, de celle des modernes, dirait Latour. C'est un corps qui se désintègre, qui vit dans une désintégrité totale, hein, comme le paradigme des Kant. C'est donc un corps qui va constamment s'individuer dans la tension entre assujettissement et subjectivation, hein, et donc dans un corps où on est à la fois toujours à la recherche de cette normalisation constante et aussi à la recherche de une résistance à cette normalisation permanente. Donc, par ailleurs, donc, il ne s'agit en aucun cas des corps vécus, puisqu'on a ce corps n'ont pas le droit, n'est pas censé fournir une base fiable de reconnaissance, ni même de corps physique qui est sujet, lui aussi, aux aléas du temps, à la possibilité de la dissimulation. Les corps dont s'occupent les techniques biométriques, c'est un corps paradoxal, puisqu'il est à la fois objectivé, réductible à des paramètres numériques, et naturalisé. Hein, voilà, c'est toujours entre les deux. Hein. En tout cas, il est naturel parce qu'il est inaltérable. Alors, parler de l'attachement au corps, c'est également prendre l'expression au pied de la lettre, à quoi le corps est-il attaché, relié, connecté. Donc ils sont, et là je voudrais faire un peu un insert sur toute une partie de mon travail qui est justement de travailler en, les liens, si vous voulez, un peu, les liens entre les corps et les technologies, disons. Donc ces corps sont intégralement attachés aux artefacts biométriques et s'informent dans une déviation systémique, voire dans un devenir, selon les cas... devenir entendu dans le sens de Deleuze et Guattari, avec ses artefacts. Comme le dit un philosophe américain, Don Eade, je ne sais pas si je prononce bien, mais Eade, bref, il dit, voilà, « Insofar I use a technology, I'm also used by a technology. » Les artefacts nous fabriquent aussi à leur image, malgré nous, leur relation corps et technologie est en ce sens herméneutique et profondément en devenir. Et alors, je voudrais, pour illustrer ça, prendre un exemple, qui n'est pas du tout un exemple de terrain, mais qui est un exemple de culture populaire. Parce que oui, les philosophes regardent aussi des séries, vous allez voir. Et donc j'ai regardé Homeland, je ne sais pas si vous avez vu cette série. Non. Donc tous les philosophes ne regardent pas Homeland. Bon. Donc c'est une série... Oui ? Homeland. Ah voilà, pardon. J'aurais dû dire les chercheurs. Les chercheurs regardent aussi des séries. Mais voilà, c'est une bonne série. Enfin bon, j'aime beaucoup les séries. Pas toutes, mais en tout cas, cette série était fascinante aussi du point de vue de ma recherche. Et donc, dans la première saison, pour ceux qui ont vu la série, la première saison commence... c'est vraiment une série typiquement post-9-11, comme disent les Américains. Donc, une série sur la surveillance, sur la course, la chasse aux terroristes, etc., sur qu'est-ce que c'est l'identité américaine, patriotique, etc., etc. Et donc, on a la protagoniste principale qui s'appelle Carrie Mathinson et qui est agent du FBI et qui est quelqu'un qui a des problèmes de bipolarité. Hein, et donc ça, ce n'est pas non plus anodin dans le cadre de cette manière dont on est formé dans les technologies, etc. Au début de la saison 1, on retrouve en fait un prisonnier américain en Irak. C'est un prisonnier qui a passé, je crois, 8 ans dans les prisons. Il revient aux États-Unis et on a peur qu'en fait il soit un agent retourné, donc quelqu'un qui finalement est aussi un agent double, si vous voulez, donc qu'il soit aussi du côté d'Al-Qaïda. Donc il revient et donc il y a ce soupçon, hein, technologie du soupçon, et vous voyez que là en termes métaphoriques ça marche extrêmement bien. Donc il y a ce soupçon qu'il pourrait être, et donc avant qu'il ne rentre chez lui après 8 ans dans les prisons irakiennes, on truffe sa maison de tas de caméras, des caméras à peu près à tous les coins de la maison, même aux toilettes, partout, sauf dans un endroit, le garage, qu'on a oublié. Et on met des micros partout aussi. Hein. Et donc, Carrie Mathinson et son équipe truffent ce micro, et puis elles rentrent chez elles, et chez elles, en fait, il y a une série d'écrans. Donc, c'est une pièce qui ressemble très fort aux pièces dans lesquelles sont les agents de surveillance, ceux qui surveillent les grandes surfaces ou les endroits publics, etc. Donc, elle passe ses soirées, en fait, ou ses journées à surveiller, en fait, cet agent Brody. Donc, à constamment épier ses faits et gestes, surveiller, écouter, surveiller, pour voir si, effectivement, son soupçon est bon. Donc, les écrans interposés, le son et les voix qui passent d'une maison à l'autre forment un agencement de surveillance très efficace, mais qui crée, en fait, une espèce d'intimité produite par la limite entre la visibilité et la dissimulation. Donc finalement, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle va tomber amoureuse en fait de ce sergent Brody. Hein, et c'est là où je vous dis finalement, il y a quelque chose qui se passe, si on regarde les choses de manière transversale, quelque chose se passe en termes d'intimité et de connexion entre les corps dont on n'a pas forcément encore pris la mesure. Bon là c'est une série, hein, c'est métaphorique, mais il y a des intuitions qui sont intéressantes. Donc elle tombe amoureuse tombe amoureuse de lui, en fait. Et leur première rencontre, en fait, puisqu'elle le piste un peu partout, elle se passe après qu'elle ait suivi au groupe de parole, donc il va à un groupe de parole d'anciens vétérans, etc. Et après 16 heures de pistage, il y a une scène qui ressemble à de la reconnaissance mutuelle. Donc ils se retrouvent sur un parking, donc une espèce de non-lieu, justement. Hein. Et alors on voit qu'il y a quelque chose de la reconnaissance mutuelle des corps. Hein, les corps se reconnaissent et reconnaissent les chairs qui se sont intensément regardées et qui ont été regardées. Parce que très vite, en fait, il se passe une intimité érotique très puissante, comme ça, entre les deux. Et c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien dans la série. Hein. Donc, bon, c'est une métaphore, évidemment. Voilà. Donc, il faut, évidemment, tout l'art d'une mise en scène d'écran superposé, de script serré, tel que cette série a fait, pour faire ressentir ce type de devenir optique des corps et devenir numérique des corps. Mais alors, ce moment, la culture populaire contemporaine illustre bien pour moi ce glissement digital qui s'opère dans les modes d'individuation postmoderne ou bien cyborgien. Donc, et d'ailleurs, vérité et dissimulation, c'est pour moi d'ailleurs les grands maîtres mots de la littérature érotique du 18e. Et là aussi, avec regarder, regardant, surveiller, etc., création du désir par celui qui regarde, etc., ceux qui sont regardés savent qu'ils sont... savent qu'ils ont, comment dire, du désir, ils produisent du désir pour ceux qui regardent, etc. Donc, il y a quelque chose aussi dans... Enfin, il faudrait, à mon avis, explorer cette piste-là du désir dans les technologies de surveillance. Bon, ça, c'est un peu une... Voilà. Je ne sais pas si... Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Oui. Oui. Attends, il me reste une page sur Donna Haraway. Voilà. Oui, ça. Parce que je vois que je suis déjà un peu à 45 minutes. Oui. Voilà. Donc ça, c'est un peu un exemple culture populaire, c'est intéressant. Donc se faire corps, hein, ces modes d'individuation corporelle, voilà, on voit que ça déborde le cadre strict de la biopolitique, hein, qui s'attarde, lui, uniquement, finalement, à la matérialité charnelle de la vie même. Hein. Les corps digitaux, si vous voulez, la biopolitique n'a pas été pensée pour traverser des corps digitaux, elle a été uniquement pensée, entre guillemets, bon, c'est un peu grossier de dire ça comme ça, mais pour traverser des corps charnels. Hein. Donc les corps sont à présent plus que de la chair humaine. Hein. Ils débordent ces frontières naturelles, naturalisées. Pour moi, il y a une impossibilité de penser, par exemple, j'ai beaucoup de discussions avec mes collègues juristes sur la question, mais l'impossibilité de penser une protection de la vie privée ou une protection des données à caractère personnel qui soit un contrôle des données, justement, qui soit dans une position de contrôle. C'est d'ailleurs un peu la position qu'ont prise les gens qui ont écrit le manifeste On Life Manifesto sur le Digital Agenda de la Commission européenne. Ils font le même constat, hein, ils appellent à repartir et à réingénierer une ontologie des modernes, car nos modes d'individuation à travers le numérique se reconfigure, si vous voulez. Alors, pour terminer cette grande tribulation, je voudrais parler de Donna Haraway, qui est une philosophe féministe des sciences. C'est une Américaine. Et alors, en 1985, elle écrit un texte qui est assez célèbre, qu'en fait, qui s'appelle le Cyborg Manifesto, le Manifeste Cyborg, et qui lui faisait dire qu'en fait, nous sommes tous des cyborgs hybrides de chair et de technologie. C'est un texte qui est écrit sous le ton du manifeste et sur un ton métaphorique un peu difficile à lire, comme ça, mais qui est extrêmement intéressant et prémonitoire. Et alors, dans cette prémonition, si vous voulez, ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle fait explicitement référence à la biopolitique de Michel Foucault. C'est comme ça que j'ai voulu un peu reconnecter et terminer mon exposé là-dessus. Dans son texte, au début de son texte, la biopolitique de Michel Foucault n'est qu'une pâle prémonition de la politique du cyborg, ce vaste champ. Voilà, c'est un peu comme ça, c'est un peu, et un côté un peu pitique, la manière dont elle le présente, mais elle fait en fait désigner, si vous voulez, pour reconnecter à ce qu'on a dit, elle va parler d'une informatique de la domination pour désigner cette invasion pervasive du numérique dans nos vies. Hein, elle décrit un monde cyborgien, donc elle prend la figure de cyborg, elle dit que c'est notre réalité, tout en montrant dans son texte, un long texte quand même, comment s'est effectuée la transition. Elle dit qu'on est en train de vivre le passage d'une société industrielle et organique à un système d'information polymorphe, du tout travail ou tout loisir, un jeu mortel, trois petits points. Bon, alors, il y a beaucoup à dire hein, sur ce texte, et je vais essayer de me restreindre, mais en tout cas, ce qu'elle dit, donc c'est que les artefacts... IT, donc biométrique et tous les artefacts numériques, je dirais, ainsi que la biologie et la biotechnologie, sont responsables de la cyborgisation des corps. Ces deux-là refaçonnent nos corps de manière décisive, de telle sorte qu'ils refaçonnent également nos interactions sociales. Elles sont particulières, car traversées par le mot d'ordre du code. Un code à découvrir. Et là, elle fait clairement un clin d'œil au grand programme de recherche sur le génome humain, dont il fallait retrouver le code, etc. Un code à imposer comme langage commun, de telle sorte que toute hétérogénéité disparaît dans les mouvements de démantèlement et de réassemblage, pour devenir une information sous contrôle, un algorithme donc. La mise en code du monde et de nos corps s'est cyborgisée. Alors elle montre en fait dans son texte comment ces éléments épistémologiques constitutifs de l'informatique transpercent nos mondes et nos corps. Donc l'informatique, c'est trois grands principes, c'est l'information, l'algorithme et la machine. C'est vraiment ce qui en fait, si vous voulez, la substantifique moelle, on dirait. Donc l'information, c'est une donnée organisée, catégorisée, facilement quantifiable. L'algorithme, c'est une suite finie et non ambiguë d'instructions permettant de donner la réponse à un problème. Et la machine est ce qui soutient ces deux objets. Alors, je l'ai dit, mais l'algorithmique, c'est quelque chose de très ancien, en fait. Des algorithmes ont déjà été écrits durant l'Antiquité, avec une impossibilité de les mettre en œuvre. Et donc, c'est seulement grâce aux machines, en fait, qu'on a pu les incarner. Et donc, si vous voulez, quelque part, ces algorithmes, et ça rejoint sans doute un peu les réflexions d'Antoinette Rouvroy, ces algorithmes ont quelque chose de vivant, d'une certaine manière, puisqu'ils s'incarnent, ils s'individuent aussi dans les machines. Ils prennent de l'ampleur et la consistance grâce à ça. Elle dit finalement que ces machines, ces informatiques, c'est ce qu'elle va appeler la base technique du simulacre. Donc, en plus de l'informatique, elle va adjoindre à tout ça parce qu'elle a pas mal travaillé sur les questions de biotechnologie. Donc elle dit que la recherche en biotechnologie possède foncièrement un caractère industriel qui pénètre dans les zones déjà troubles des artefacts biotechnologiques, tout autant naturels que technologiques. Et donc nos vies quotidiennes en sont essentiellement imprégnées. Notre organisation matérielle au quotidien, tout comme nos imaginaires, se restructure autour d'une nouvelle organisation de l'intime, décloisonnée des binarités privées-publiques, matérielles-idéales. C'est une nouvelle forme de corporéité, paradoxale, comme le souligne Delphine Gardet, car l'évanouissement de l'enveloppe corporelle et la mise à mal des dichotomies classiques, puisque c'est tout le jeu de son texte, c'est de saper, si vous voulez, toutes ces binarités, intérieur-extérieur, soi-monde, nature-culture, n'empêche pas la présence du vivant, de la chair et du sang dans les machines arawaïennes. Donc, si vous voulez, il s'agit bien plus de recomposition permanente, faite de démantèlement et d'assemblage, de matériaux divers, matériels et immatériels, humains, machines et animaux. Donc voilà, c'est une grande, si vous voulez, une grande méditation finalement sur cette transformation à venir. Et c'est un texte qui maintenant a 30 ans, donc quand on le relit maintenant, on voit les intuitions et on voit aussi les chemins qui ne sont pas forcément les plus aboutis, on va dire. Mais il y a quelque chose comme ça en termes ontologiques, en termes de mode d'individuation qu'il est intéressant de penser. Et sur, par exemple, la question du désir, la question surveillant, surveiller, etc., décloisonner un peu... les champs d'application, si vous voulez, des caméras, c'est intéressant. Voilà. Bon. J'ai terminé. Voilà. Merci. Merci.